faudra transformer radicalement la société pour en finir avec ces tendances, en quelque sorte, les plus oppressives, les plus brutales, les plus violentes, qui se cristallisent autour du fascisme.
Bonjour Hugo.
Bonjour Rab.
On va commencer donc par définir le concept, comme toujours dans l'ABCDR. Comment est-ce que toi tu définis le fascisme ?
Question difficile, parce qu'il n'y a pas de consensus parmi les historiens, politistes, ou toutes les personnes qui travaillent sur cette question. Donc la définition que je propose, c'est la suivante, à savoir que le fascisme est un mouvement de masse, un mouvement qui cherche à construire une base de masse, à l'activer d'une manière ou d'une autre, minimalement, soit électoralement, c'est en faisant en sorte que des masses, des millions de gens votent pour eux et pour leurs idées, ou en tout cas, ou parfois à l'activer davantage, c'est-à-dire y compris à la mobiliser dans la rue contre bien souvent les mouvements de contestation syndicaux ou politiques ou féministes, antiracistes, etc. Et qui cherche à obtenir le pouvoir pour imposer un certain type de projet société, qui est un projet, je dirais, de régénération nationale ou civilisationnelle par purification en réalité, qui considère que notre communauté, qu'elle soit la nation, qu'elle soit, disons, théorisée comme nation, comme civilisation, comme race, hein, est en déclin, en décomposition, en décadence. Elle est en déclin, en décadence parce qu'il y a des minorités ou des immigrés qui empêchent la nation d'être elle-même, tout simplement, et ou de retrouver sa grandeur, et ou d'être fidèle à ses racines profondes, immémoriales, etc. Et donc, pour faire renaître cette nation, cette communauté organique, en quelque sorte, et considérée comme homogène, racialement homogène notamment, eh bien, il faudrait la purifier de ces éléments indésirables. Bon. Et donc, ils vont chercher à utiliser le pouvoir d'État, à la fois pour aller dans le sens de ce projet, mais aussi pour relancer l'accumulation du capital. C'est un projet qui est profondément capitaliste, on y reviendra, qui vient en quelque sorte au secours du capital dans certaines situations historiques précises. Donc voilà, le fascisme, c'est tout ça, c'est un projet de régénération par purification qui, quand il se retrouve au pouvoir, mène une politique d'écrasement, d'anéantissement de l'ensemble des mouvements de contestation qui cherchent à briser toute forme de résistance, qu'elle soit syndicale, politique, associative, même artistique ou journalistique, qui cherche en quelque sorte à anéantir tout espace de contre-pouvoir populaire, là encore, quel qu'il soit. Y compris sous des formes très partielles, très modérées, hein, dans les dictatures de type fasciste, dans les régimes de type fasciste, et plus globalement dans les dictatures d'extrême droite, si on inclut les régimes dominés par l'extrême droite militaire, Pinochet au Chili ou l'Espagne de Franco, hein, y a cette idée que rien ne doit subsister de la capacité de résistance et d'autodétermination, d'une certaine manière, des classes populaires et des groupes opprimés. Qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des minorités raciales, des minorités religieuses, etc. Il faut en quelque sorte briser dans l'œuf toute velléité de résistance et d'opposition.
Dès la première page de ton livre, donc « Comment le fascisme gagne la France », qui est sorti aux éditions La Découverte, on trouve une citation de l'historien israélien Ziv Sternel. Donc, c'est un historien dont les positions étaient beaucoup discutées. Lui défend l'idée qu'il y a eu un fascisme historique en France, et il va même plus loin, il en trouve l'origine idéologique en France. Ça a suscité une grosse controverse historique face à d'autres historiens, souvent français, qui considèrent eux qu'il n'y a jamais eu de fascisme stricto sensu en France. Comment toi tu te situes dans ce débat ?
Le débat autour de Sternel, en fait, il on pourrait même l'étendre un peu au débat autour de la soi-disant allergie française au fascisme. Bon, la thèse dite immunitaire, en quelque sorte, les valeurs républicaines, la République, en quelque sorte, française, aurait rendu la France allergique au fascisme, aurait empêché le développement du fascisme, sauf sous des formes groupusculaires. D'une certaine manière, Sternel, c'est un bout de la réponse, puisque Sternel, notamment, ce pourquoi il est le plus connu, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de, enfin, la généalogie d'une forme de pré-fascisme qu'il situe à la fin du XIXe siècle, début du XXe, autour de l'affaire Dreyfus, notamment, et de la montée de mouvements du type Action française, Ligue antisémitique, également évidemment l'œuvre de Maurice Barrès sur lequel Sternel a écrit sa thèse en réalité, hein, sur Maurice Barrès. Et donc l'idée que le fascisme en tant que synthèse intellectuelle ne naît pas dans les tranchées de 14-18, ne naît pas avec le fascisme de Mussolini en 1919, mais naît auparavant comme synthèse entre, pour faire très vite, hein, le national et le social, entre des branches issues de la gauche, mais qui rompent avec notamment le marxisme, et des branches de la droite nationaliste réactionnaire qui cherchent à se donner, enfin en tout cas à construire une base de masse justement, à aller vers les masses populaires, etc. Donc d'ailleurs cette synthèse un peu étrange au départ qui va se former. Donc Sternhell essaye d'en faire l'histoire. Donc ça c'est un bout de la réponse, c'est de dire la France n'a évidemment pas été allergique au fascisme. D'ailleurs très certainement la synthèse intellectuelle que constitue le fascisme est née en France, notamment sous la plume de gens comme Barrès ou Maurras, etc. L'autre réponse c'est de dire dans les années 30 qu'il y a eu des organisations qui n'avaient rien de groupusculaire et qui avaient un caractère fasciste ou fascisant, en particulier le Parti populaire français de Jacques Doriot à partir de la moitié des années 30 qui a eu jusqu'à plusieurs centaines de milliers de militants, ce qui n'est pas vraiment un groupuscule. Beaucoup de débats ont tourné autour de la caractérisation d'une organisation qui s'appelait les Croix de Feu, qui est devenue ensuite le Parti social français, après sa dissolution au moment du Front populaire, et qui a eu, là pour le coup, qui a été la plus grande organisation, la plus grande ligue en quelque sorte d'extrême droite, et qui s'inspirait par bien des aspects, on le sait aujourd'hui, du fascisme notamment italien. Et puis il y a eu d'autres organisations encore, en fait pléthore de ligues d'extrême droite qui en partie ont été dissous au moment de l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Donc il y a cette deuxième réponse, troisième réponse, le régime de Vichy, qui là encore il y a des débats sur est-ce que c'était une dictature à proprement parler fasciste, est-ce que c'est une dictature qui ressemblait davantage très certainement aussi à la dictature de Salazar au Portugal. Ok, certains historiens comme Philippe Béran ont montré que c'était une dictature qui s'inscrivait très clairement dans ce qu'il appelait le champ magnétique des fascismes, qui par ailleurs empruntait nombre de ses traits au fascisme, au régime fasciste, notamment là encore italien. Par ailleurs, qui pratiquait un antisémitisme en réalité même beaucoup plus fort que le régime italien, qui n'avait d'autres concurrents en réalité en Europe que le régime nazi, hein, en termes de. Et on sait depuis notamment l'historien américain Robert Paxton que cet antisémitisme d'État pratiqué par Vichy a été mis en place avant même que les Allemands n'exigent quoi que ce soit en matière notamment de déportation des Juifs et des Juives. Donc il y a une troisième réponse, et quatrième réponse, c'est de dire la France a été un des pays dans lequel l'extrême droite, après la Seconde Guerre mondiale, a connu une renaissance, en réalité assez tôt, au début des années 80, bien plus tôt que l'Allemagne, bien plus tôt que l'Espagne, bien plus tôt que le Portugal, par exemple, qui avait aussi connu des dictatures d'extrême droite. Et donc cette présence, cette puissance en réalité de l'extrême droite en France, fasciste, fascisante, post-fasciste, néo-fasciste, on peut discuter, mais elle est là de longue date, et on l'expliquerait mal si on pensait que effectivement tout au long du XXe siècle, la France aurait été allergique au fascisme, et puis d'un seul coup, naît ou renaît, ou en tout cas naît à une échelle de masse, une extrême droite virulente, sous la forme de, je sais pas, Jean-Marie Le Pen et le Front National dans les années 80. En fait, évidemment, Jean-Marie Le Pen et le Front National s'inscrivent dans la filiation directe du fascisme ou des fascismes français, et en tout cas des extrêmes droites françaises, puisque à l'origine du Front National, il y a à la fois les anciens collabos et anciens Waffen-SS, dont le numéro 2 du FN au départ, Victor Barthélémy, mais aussi celui qui dépose les statuts du FN en préfecture Bousquet, qui est un ancien Waffen-SS. Il y a les anciens de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui avait commis tant d'attentats en Algérie et sur le sol la France métropolitaine dans les années 60. Donc avec voilà des militants de l'OAS et des sympathisants de l'OAS, et puis il y a les anciens aussi poujadistes autour de Jean-Marie Le Pen, et puis il y a également les fascistes cogneurs trop jeunes pour avoir collaboré, qui étaient membres d'Occident, d'Ordre Nouveau dans les années 60 puis au début des années 70. Donc c'est toute cette galaxie, toute cette constellation des mouvements d'extrême droite clairement fascistes ou au minimum fascisants qui se retrouvent à la fondation du Front National. Et si le Front National a réussi à percer assez vite par rapport à d'autres pays en Europe, c'est bien précisément parce qu'il s'inscrivait dans une histoire dans laquelle l'extrême droite a toujours été puissante.
Il y a un autre point qui est intéressant chez Sternhell, et tu l'as rapidement évoqué, c'est l'idée que il y aurait eu des passages donc de la gauche à l'extrême droite, et dans le fascisme des éléments du mouvement ouvrier conceptuel et du socialisme. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'on voit un peu de manière détournée aujourd'hui dans l'accusation que porte souvent l'extrême droite de dire que le fascisme aurait été de gauche parce qu'il y aurait socialisme dans le national-socialisme, le nom du parti nazi. Comment est-ce qu'on répond à cet argument, cette idée que le fascisme serait de gauche? Quelque chose qu'on entend parfois, donc de plus en plus à l'extrême droite.
Oui, effectivement, on a même vu Musk dire ça en visio dans un meeting, il me semble, de l'AFD en Allemagne, disant « Vous n'avez pas à vous excuser du nazisme, puisque précisément le nazisme était de gauche, et vous n'êtes clairement pas de gauche », ce qui est effectivement le cas pour l'AFD, qui est évidemment un parti d'extrême droite pro-capital et raciste, islamophobe, etc. Alors, en général, ça s'appuie sur trois choses, hein. L'argument selon lequel le fascisme serait de gauche, c'est Mussolini était de gauche. Et effectivement, Mussolini était un dirigeant du Parti socialiste et même de son aile gauche, anti-militariste, anti-capitaliste, anti-guerre, anti-colonial. Bon, je vais en reparler. Il y a l'autre argument qui est de dire dans nazisme, c'est parti national-socialiste, des travailleurs allemands, il y a à la fois socialistes, il y a travailleurs, donc tout ça c'est de gauche. Et le troisième argument en général, c'est de dire les nazis, enfin les fascistes et en Italie et en Allemagne, les nazis en Allemagne, ont eu une politique étatiste, donc de gauche. Bon, comme si par ailleurs l'étatisme était nécessairement de gauche. Mais bon, mais je vais y revenir sur ces trois points. Mussolini, effectivement, est quelqu'un qui vient de la gauche, et même de la gauche, je dis, du socialisme italien. En réalité, effectivement, il se retourne complètement pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il fait partie de ceux au sein du mouvement ouvrier italien, y compris du mouvement syndical, qui prône l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés. Et qui va être d'ailleurs payé par la Grande-Bretagne en réalité pendant toute la Première Guerre mondiale pour plaider dans son journal pour l'entrée en guerre de l'Italie, on le sait maintenant. Et en réalité, en fait, oui, Mussolini a été de gauche, mais il a rompu radicalement avec la gauche et avec toutes les idées qu'il avait professées antérieurement. Donc évidemment, qu'est-ce qui reste de gauche dans le Mussolini de 1919-1920? En réalité, alors au tout début, un peu quelque chose dans le premier programme du fascisme, qui ne sera jamais appliqué, et même au contraire, les fascistes vont faire presque l'exact inverse de ce qu'ils prônaient leur tout premier programme qui incluait un certain nombre de revendications sociales, laïques, y compris en faveur même des femmes, du droit de vote des femmes, etc. Tout ça va être oublié une fois que les fascistes vont arriver au pouvoir. Donc Mussolini va radicalement rompre avec l'ensemble de la gauche, même des idées de gauche modérées, mais encore plus avec les idées de la gauche radicale, communiste notamment. Il va être d'ailleurs le personnage le plus détesté par l'ensemble de la gauche italienne, qu'il s'agisse des socialistes, des communistes, des anarchistes. Il est obligé de se balader dans Milan accompagné de gorilles pour le protéger en permanence parce qu'il était menacé, y compris physiquement, par l'ensemble des militants ouvriers qui le laboraient comme un traître. Bon, donc il vient de la gauche effectivement, mais il a radicalement trahi. Il n'a rien en quelque sorte importé de la gauche. Une fois passé au fascisme, et on le voit notamment à travers sa politique, et ça c'est vrai pour le fascisme allemand, c'est-à-dire que comment il serait possible que ces mouvements soient de gauche alors même que leur cible principale dès qu'ils arrivent au pouvoir, les gens qu'ils assassinent, des gens qu'ils mettent dans des camps, des gens qu'ils condamnent à l'exil, sont l'ensemble des tendances de la gauche. Bon. Aussi bien d'ailleurs les socialistes relativement modérés que des communistes, que des syndicalistes, que des anarchistes. Alors, ce serait étonnant que ce mouvement de gauche, sa principale cible, ce soit uniquement les mouvements de gauche, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, et leur cible, y compris sur le plan vraiment de la répression physique la plus brutale, la plus criminelle. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, mais on y reviendra très certainement, ils mènent des politiques brutalement capitalistes et outrageusement en faveur et au service du capital, et du grand capital, et des grands propriétaires terriens dans les campagnes. Donc, assez étonnant du point de vue d'une politique minimalement même de gauche. Bon, c'est même pas une politique, si vous voulez, socialiste réformiste. On est très loin. On est sur une politique qui est effectivement à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il vise à consolider les rapports sociaux d'exploitation capitaliste, etc., par l'emploi le plus brutal de la force, de la coercition physique, policière, militaire, etc. Je viens au deuxième argument sur le national-socialiste, le nazisme allemand, etc. Hitler était tout à fait clair lui-même quand on lui demandait quel est le caractère socialiste du parti national-socialiste. En réalité, il dit il n'y a rien de socialiste au sens où la gauche socialiste ou communiste l'entend. Le mot socialiste a été employé dès la fondation du parti du NSDAP, du Parti National Socialiste, pour attirer les masses ouvrières à une époque où effectivement le mouvement qui avait le vent en poupe à l'échelle européenne notamment et même mondiale en réalité, c'était les mouvements qui se disaient socialistes, qui prétendaient rompre avec le capitalisme. Tout le monde considérait, même les observatoires et les observateurs bourgeois ou experts bourgeois, que ce qui avait de l'avenir à l'époque, c'était le socialisme. Donc d'une certaine manière, pour un parti qui se crée juste après la Première Guerre mondiale, dans un moment qu'on dirait aujourd'hui dégagiste, où un moment où les après la Première Guerre mondiale, avec son côté, avec les massacres de masse qui ont été commis pendant toute cette période-là, il y avait vraiment l'idée de mettre dehors les élites traditionnelles. Et donc, se proclamer socialiste, c'était d'une certaine manière se proclamer du côté du peuple aspirant à foutre dehors les élites qui avaient conduit à la guerre et à la misère, etc., quoi. Donc, il y avait une dimension essentiellement, pour ne pas dire uniquement tactique, dans l'emploi du terme socialiste. D'ailleurs, pour le coup, autant en Italie, il y a eu effectivement au début du fascisme pas mal de personnes qui venaient du socialisme, du syndicalisme, etc. Dans le cas du nazisme, c'est pas du tout le cas. Il y a quasiment aucune figure majeure qui vient de la gauche, même s'il y a dans le nazisme une aile qu'on dit parfois plébéienne ou de gauche, la gauche du nazisme, mais ces gens-là ne venaient pas du mouvement ouvrier, ne venaient pas de la gauche. L'autre chose, c'est évidemment que c'est encore plus vrai dans le cas du nazisme que leurs cibles principales ont été la gauche. En quelques mois, ils ont mis dans les camps de très nombreux dirigeants, cadres et militants de l'ensemble des mouvements de gauche, là encore, socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, etc. Et dernier point sur l'économie fasciste. Là encore, l'étatisme qu'on prête aux fascistes est en réalité est extrêmement enfin, c'est vraiment une idée fausse au sens où les fascistes, ni en Italie ni en Allemagne, n'ont jamais remis en cause la propriété privée des entreprises, du capital, jamais remis en cause les rapports d'exploitation capitalistes, en quelque sorte que ce soit. Au contraire, ils les ont largement accentués en brisant toutes les formes de résistance syndicale, notamment sur les lieux de travail, en interdisant en réalité les syndicats. Donc l'étatisme du nazisme, en réalité, c'est un étatisme contre les travailleurs. C'est un étatisme, en réalité, en faveur des profits. C'est un État fort pour un marché libre, en réalité, ou plutôt un État fort pour un capital sans entrave. Et ça, là encore, les nazis et leur soutien étaient tout à fait clairs là-dessus. Et pourquoi le patronat a poussé en faveur d'une solution fasciste, aussi bien en Italie qu'en Allemagne, c'est précisément parce qu'il savait que le fascisme n'était pas de gauche. Et n'avait certainement pas de dimension anticapitaliste. Pour préciser, gauche, parce qu'il y a des débats sur qu'est-ce qu'on entend par gauche, mais en tout cas, si on entend minimalement par gauche un mouvement qui s'oppose partiellement ou radicalement au capital, il n'y avait rien de gauche dans le fascisme.
Tu notes l'apparition dans le débat public d'un néologisme, celui d'islamo-fascisme, un concept qui te semble manquer de rigueur. Pourquoi est-ce que l'assimilation entre islamisme et fascisme te semble incorrecte?
Alors c'est quelque chose qui est apparu, il me semble, hein, notamment dans la sphère anglophone, après le 11 septembre 2001. Il y a eu toute une série de débats en Angleterre ou en Grande-Bretagne et aux États-Unis autour de ça et de l'emploi de la catégorie de fascisme pour désigner des mouvements dits islamistes. Alors je dis dits islamistes parce qu'en fait le premier problème là-dedans, c'est que islamiste est une catégorie absolument fourre-tout. D'abord, c'est une catégorie extrêmement piégeuse dans le débat français et dans bien des pays également, puisqu'en réalité, dans islamiste, bien des gens et notamment des observateurs médiatiques ou des commentateurs plutôt médiatiques, incluent des pratiques ou des personnes ou des courants ou des populations qui n'ont rien d'intégriste et qui en fait pratiquent simplement l'islam. Quand il y a eu une campagne étatique contre les, enfin, prétendant mettre en évidence les signaux faibles de radicalisation islamiste, on voyait bien que là-dedans, on incluait des tas de choses qui en fait relevaient de la simple pratique de l'islam, le fait de faire ses prières régulièrement, le fait de, je sais pas moi, ou le fait de vouloir faire le pèlerinage, le fait de modifier ses habitudes alimentaires, etc. Bon, parmi d'autres choses, hein, mais on voyait bien qu'en fait, ce qui était visé à travers la catégorie d'islamisme et de radicalisation islamiste, en réalité, était beaucoup plus large que les courants que l'on peut dire de l'intégrisme islamique, de l'intégrisme religieux. Je précise par ailleurs que l'intégrisme religieux n'a pas une religion. Enfin, toutes les religions sécrètent de manière minoritaire des courants intégristes, qui effectivement sont des adversaires, des ennemis des idées émancipatrices, des projets égalitaires en général, de justice sociale, etc. Et là encore, même dans les courants intégristes, il faudrait faire toute une série de distinctions entre les courants salafistes. Même dans l'univers salafiste, il y a des courants divers entre les courants quiétistes qui ne se préoccupent pas de politique et qui sont sans doute majoritaires d'ailleurs dans le salafisme, et les courants qui sont très certainement majoritaires d'ailleurs dans le salafisme, y compris en France, hein, et des courants violents, djihadistes, et d'autres courants politiques qui ne pratiquent pas la violence, etc. Enfin, il y a là encore une hétérogénéité importante. Si on ajoute à ça toute la constellation des mouvements associés aux frères musulmans, musulmans, enfin, on est sur quelque chose qui n'a là encore pas grand-chose à voir, sinon rien à voir. Donc tout ça va être englobé dans l'islamisme. Donc déjà, j'ai ce problème-là qui fait que parler d'islamo-fascisme n'a pas beaucoup de sens. Après, il y a un autre argument qui est de dire que, là encore, ça repose sur cette idée que si on veut qualifier le mal en politique, il faut l'associer au fascisme. En tout cas, c'est un argument qui porte en Europe, dans d'autres, parce que fascisme est synonyme de barbarie. Alors évidemment, si vous êtes dans d'autres régions du monde, les choses se présentent différemment. Si vous êtes vietnamien, la barbarie, pour vous, c'est très certainement l'impérialisme états-unien et même français, avec ses guerres coloniales, etc. Si vous êtes algérien, c'est peut-être pas le fascisme qui est l'image, l'emblème, en quelque sorte, du mal en politique ou de la barbarie, ça va plutôt être l'impérialisme français qui a commis des campagnes génocidaires en Algérie dès le 19e siècle, au moment de la conquête en 1830. Donc voilà, dans le climat effectivement européen occidental, si on veut qualifier un mouvement négativement en l'associant au mal, à la violence, etc., on va l'associer au fascisme. Bon, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est rigoureux? Non, notamment parce que les courants, notamment qu'on cherche au moins à viser spécifiquement comme les courants intégristes, voire les courants djihadistes, sont des courants réactionnaires, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont des courants, je l'ai dit, qui sont opposés profondément et de manière virulente aux idées égalitaires, émancipatrices, etc., et aux projets au projet de société globalement de la gauche, et notamment de la gauche radicale. Ceci dit, ils n'ont pas grand-chose à voir avec le fascisme, c'est une autre variété en réalité de politique réactionnaire qui ne s'appuie pas en général sur les mêmes, donc qui ne s'appuie pas sur les mêmes idées, ça c'est clair, notamment dans le fascisme, la religion n'a jamais été au centre, loin de là, les fascistes ont pu soit nouer des alliances avec des secteurs religieux, notamment avec l'Église catholique en Italie par exemple, passer des compromis, mobiliser parfois la religion de manière instrumentale, etc. On le voit y compris à l'échelle mondiale aujourd'hui. Mais leur projet est fondamentalement autre. Il y a une dimension mythologique dans le fascisme, mais fondamentalement, c'est une mythologie de la nation et une mythologie d'un nationalisme purificateur visant à libérer la nation de, je le disais, de ces éléments indésirables, des éléments par ailleurs de gauche qui fracturent l'unité de la nation, soi-disant artificiellement, etc. Le projet des intégristes, des intégrismes religieux est tout autre d'une certaine manière. Donc là encore, il ne s'agit pas de dire c'est que je sais pas le djihadisme qu'a commis des attentats en France, c'est pas grave, c'est évidemment extrêmement grave et évidemment extrêmement réactionnaire, mais là encore, on n'y comprend rien si on l'associe à la catégorie de fascisme.
Dans ton travail, tu cites régulièrement Gramsci, qui est un leader et penseur communiste italien, qui est lui-même mort dans les geôles fascistes. Il avait une sorte de rival au sein du mouvement communiste, qui est aujourd'hui un petit peu moins connu, qui était Bordiga. Qui lui aussi a pas mal écrit sur le fascisme, mais avec une approche justement assez différente. Est-ce que tu t'es intéressé à cet auteur? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, effectivement, ces deux auteurs, enfin deux militants, avant d'être des auteurs, hein, et dirigeants du mouvement communiste italien, socialiste puis communiste, puisque c'est des gens qui ont adhéré au Parti socialiste italien et qui étaient des dirigeants de son aile radicale et qui ont fondé en 1921 le Parti communiste italien. Et leur héritage est important pour nous parce que c'est les premiers, d'une certaine manière, à avoir dû affronter sur le plan pratique, militant, mais aussi sur le plan théorique, intellectuel, le fascisme. Bon. Et qui se sont posés, d'une certaine manière, des questions de... qu'est-ce que c'est que le fascisme, comment le combattre, etc. Et effectivement, Bordiga, Amadeo Bordiga, c'est quelqu'un qui dirige le Parti communiste italien, en gros, de sa fondation en 1921 jusqu'à 1923, si je ne me trompe pas, qui ensuite est remplacé, en réalité, à la direction du Parti communiste italien par Gramsci et, on va dire, son équipe. Autour de lui, c'est des gens avec qui il avait notamment travaillé d'un point de vue militant hein, à Turin, donc dans sa ville, notamment pendant les deux années rouges, le Biennio Rosso de 1919-1920, qui est une période de grande grève, occupation d'usines, etc. en Italie, et une situation pré-révolutionnaire, disons. La différence entre les deux, c'est que justement, Bordiga n'a très certainement, de mon point de vue, hein, n'a pas saisi à la fois la singularité du fascisme et du danger qu'il représentait à l'époque, considérait que c'était une politique bourgeoise, à peu près comme les autres, d'une certaine manière. Une autre variété de politique bourgeoise, ni plus ni moins dangereuse, et qu'elle ne justifiait pas, elle ne saurait justifier de politique particulière et notamment de politique d'alliance. Donc c'est quelqu'un qui a refusé notamment que les communistes italiens cherchent des alliances même défensives avec les socialistes, qui était le parti qui restait le parti dominant au sein du mouvement ouvrier italien, qui notamment dirigeait la principale confédération syndicale, etc. Et donc de même que d'ailleurs en Allemagne, hein, où le parti socialiste, le SPD, est resté dominant tout du long de la République de Weimar, même si le parti communiste allemand a progressé, hein, mais le parti socialiste était largement dominant, et donc on ne pouvait pas imaginer une réaction, enfin une politique de défense ouvrière vis-à-vis de l'ennemi fasciste sans entraîner d'une certaine manière les masses socialistes, les masses qui se reconnaissaient encore dans le mouvement socialiste et dans les syndicats qui étaient dominés et dirigés par les socialistes. Donc Bordiga considère que c'est une politique bourgeoise parmi d'autres, que les socialistes sont des traîtres et donc qu'on ne saurait s'allier avec eux. Il va plus loin que ça, parce que par exemple, quand il y a une réaction qui commence à émerger vraiment de défense armée populaire contre les fascistes, notamment qui viennent des Arditi de Popolo, un groupe d'anciens combattants antifascistes, donc, qui cherchent à combattre le fascisme, y compris par les armes, qui va par exemple organiser la défense de Parme face à une offensive militaire fasciste, hein, qui cherche à investir la ville, etc. Et ils vont pas réussir parce qu'il y a les Arditi del Popolo en face. Eh bien, par exemple, Bordiga, en tant que dirigeant du Parti communiste, va considérer que les communistes n'ont rien à voir et n'ont rien à faire avec les Arditi del Popolo. Là encore, donc, au prétexte que, d'une certaine manière, ce qu'il faut faire, c'est la révolution ouvrière, que la révolution ouvrière doit être dirigée par le Parti communiste italien, que tous les autres sont des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas la bonne ligne d'une certaine manière, qui ne sont pas léninistes au sens où Bordiga du moins l'entend. Et donc Bordiga notamment va refuser le tournant de l'international communiste de 1921-1922, où l'international communiste, au moment de son troisième et de son quatrième congrès, vont dire attention, la période n'est plus la même qu'en 17-18, et sans doute nous avons été un peu... nous sommes un peu exaltés sur le fait que ça, les révolutions allaient, que les pays allaient tomber les uns après les autres dans l'escarcelle, en quelque sorte, de la révolution ouvrière communiste, et que ça allait être assez simple. En réalité, les communistes découvrent que la plupart des masses populaires en Europe sont restées assez fidèles au courant socialiste, donc pour faire vite de gauche ou centre-gauche. Et donc se pose la question à la fois pour cette raison de l'enquistement des masses dans les partis socialistes réformistes et de l'offensive très violente et qui pose la question même de l'existence des organisations ouvrières, qu'elles soient communistes ou socialistes. En gros, l'international communiste dit il faut une politique d'alliance, qu'ils vont appeler front unique ou front unique ouvrier. Et l'idée, c'est certainement pas de se mélanger avec les socialistes ou surtout pas de s'assimiler aux socialistes ou de recréer un parti commun. C'est de dire marcher séparément avec chacun nos idées, nos cortèges, nos projets, et frapper ensemble. Bon, frapper l'ennemi, l'ennemi mortel, au sens... Vraiment, cette idée d'ennemi mortel, elle est importante. L'idée, c'est pas simplement des gens qui vont nous réprimer ou davantage nous réprimer, c'est des gens qui vont briser radicalement nos organisations. Bon. Et donc, ça changera radicalement la situation pour les ouvriers, puisqu'ils n'auront plus d'organisation de défense, ni syndicale, ni politique, etc. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre au sérieux que, de fait, les masses ouvrières n'ont pas rejoint majoritairement les partis communistes. Donc, dans cette période-là, il faut réussir à trouver des formes de front, de créer des fronts. Et, bon, voilà, le front unique ouvrier, c'est ça. C'est un front qui part des organisations ouvrières, qu'elles soient politiques ou syndicales, en défense notamment des droits et libertés démocratiques conquis par la classe travailleuse dans les années ou dans les décennies qui ont précédé. Donc voilà, Gramsci va d'une certaine manière davantage s'inscrire dans ce tournant stratégique, on va dire, de l'international communiste en 1921-1922, qui sera toujours refusé en réalité par Bordiga. Bordiga considérant même que l'antifascisme est une illusion, une pure illusion, que l'idée de se déclarer antifasciste et pratiquer une politique antifasciste, c'est se mettre en quelque sorte dans la main de la bourgeoisie libérale en particulier. On y reviendra peut-être, hein, sur ce débat sur voilà, qu'est-ce qu'on entend par antifascisme. Mais donc voilà, Bordiga ne va pas prendre ce tournant et va être minorisé au sein du Parti communiste italien. Et à mon sens, il est en partie responsable du fait que le Parti communiste italien n'a pas au moment où justement, dans un moment qui n'était plus un moment révolutionnaire en Italie, qui était un moment profondément défensif pour la classe ouvrière italienne, n'a pas su en quelque sorte aider orienter le Parti communiste italien vers l'idée de serrer les rangs dans un moment de défense pour ensuite repartir à l'offensive. Il y a cette idée notamment défendue par Nikos Polantzas qu'il y a des moments défensifs dans lesquels il faut savoir s'allier, y compris avec des gens avec lesquels on n'est absolument pas d'accord, et s'allier vraiment défensivement, tout à chaque fois en gardant sa liberté absolue de critique, de discussion, tout en, en conservant ses organisations, son drapeau, ses idées, etc. Mais voilà, en étant capable de créer, de bâtir des alliances suffisamment larges, suffisamment puissantes pour affronter l'ennemi, pour ensuite passer à l'offensive.
Puisqu'on parle d'alliances, donc il y a beaucoup de gens en France qui veulent faire des alliances de toute la gauche pour contrer l'extrême droite. Dans ce qu'on comprend bien dans ton travail, c'est que tu fais quand même un distinguo entre fascisme et fascisation. Donc la fascisation, c'est le processus qui amène au fascisme, il n'y arrive pas du jour au lendemain. Quel a été le rôle du Parti Socialiste, selon toi, dans ce processus de fascisation?
Ils ont eu un rôle absolument crucial depuis les années 80, donc depuis 45 ans, environ, dans la progression de l'extrême droite en France, dans la fascisation de l'État, dans la fascisation du débat public. On peut le voir à plusieurs niveaux et à différents moments. Le premier moment, c'est les années 80, avec le tournant dit de la rigueur et l'adoption de politiques d'austérité de la part du gouvernement socialiste, ou dominé par le Parti Socialiste, puisqu'au départ, il y a aussi le Parti Communiste et le Parti Radical de Gauche dans la coalition de Mitterrand au pouvoir au début des années 80. Donc, ils renoncent très vite à leur prétention à changer la vie, à faire des réformes favorables à la classe ouvrière, aux classes populaires, aux salariés plus généralement, avec cette politique de ce tournant de la rigueur. Et le premier aspect, c'est le désespoir que ça a alimenté au sein des classes populaires. C'est aucune politique. D'une certaine manière, ils validaient ce que Thatcher disait. Il n'y a pas de politique alternative. Il n'y a pas d'alternative à cette société capitaliste et même au tournant néolibéral, puisque c'est ça que fait le Parti Socialiste. Et une grande partie des contre-réformes néolibérales des années 80 sont passées par le Parti Socialiste. Et peut-être n'aurait peut-être pas pu être passé par la droite, parce que si c'était la droite au pouvoir, comme ça a été entre 86 et 88, au moment où la droite revient au pouvoir, avec une droite dure d'ailleurs, hein, avec Chirac, Pasqua, etc., il y aurait eu une levée en masse beaucoup plus importante hein, du mouvement syndical. Or là, le mouvement syndical, quand c'est la gauche au pouvoir, on l'a vu avec Hollande au moins jusqu'à 2016, les syndicats sont en général assez passifs, voire apathiques, quand c'est la gauche ou la prétendue gauche au pouvoir, quand c'est même sous direction du Parti Socialiste, et en particulier dans les années 80, hein, et notamment par exemple la CFDT, ne va jamais lever le petit doigt si c'est un gouvernement socialiste au pouvoir. Donc voilà, il y a ce fait d'avoir largement diffuser le désespoir au sein de classes populaires qui avaient cru dans les promesses de Mitterrand, de la gauche, du Parti Socialiste, de changer la vie, puisque c'était le slogan. Et d'ailleurs, effectivement, c'est juste de dire que la majorité des électeurs du Front National dans les années 80 viennent de la droite, à peu près 55% dans mon souvenir, c'est-à-dire des gens qui avaient voté Chirac ou Giscard en 81 et qui votent pour le FN en 84, en 86, en 88. Donc c'est des gens qui viennent majoritairement de la droite, mais une autre partie vient non pas d'électeurs communistes, comme on le dit souvent, mais d'électeurs qui avaient voté Mitterrand au premier tour. Environ 25 à 30%. Donc il y a 25 à 30% des électeurs de Jean-Marie Le Pen en 88, par exemple, la première fois qu'il fait une percée à l'élection présidentielle, qui avaient voté Mitterrand 7 ans plus tôt. En réalité, c'est assez énorme. Bon. Et contrairement à une idée reçue, ça vient pas de la gauche radicale, de même que dans les années 2010, l'électorat de Marine Le Pen ne vient pas de Jean-Luc Mélenchon ou du Front de Gauche ou de la France Insoumise, mais vient de gens déçus de la politique des sociodémocrates. Donc voilà, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que quand vous pratiquez des politiques néolibérales un des principes et un des effets, c'est l'intensification des concurrences sur l'ensemble des aspects de la vie, hein. Évidemment le marché du travail, mais aussi la question du logement, aussi la question scolaire. Quand vous intensifiez les concurrences, vous donnez en quelque sorte du grain à moudre à ceux qui disent, eh bien, dans cet état de concurrence démultipliée, il faut que ceux qui sont vraiment d'ici, les Français, les vrais Français, les Français de souche, passent avant. D'une certaine manière, quand il y en a pour tout le monde, la proposition politique selon laquelle, en termes de préférence nationale ou préférence nationale raciale, puisque en fait c'est ça que propose le FN, ne parle pas à grand monde, puisque tout le monde globalement se trouve servi en termes d'emploi, en termes éventuellement de logement social, en termes de soins, de santé, etc. Dans une société où domine la concurrence et de plus en plus la pénurie de soins, c'est difficile de soigner, c'est difficile d'obtenir un logement, c'est difficile d'obtenir les bonnes filières pour ses enfants ou des écoles correctes pour ses enfants. Évidemment, dans cet état-là de concurrence et de pénurie, la proposition qui dit « vous devriez passer devant parce que vous êtes des vrais Français », eh bien là, ça fait mouche. Bon. Donc le fait de ne pas, non seulement de pas s'être opposé au tournant néolibéral, mais en réalité d'avoir mené ces politiques activement néolibérales de la part du Parti socialiste, a été là encore une contribution à la montée de l'extrême droite. Troisième point, souvent on dit, et c'est radicalement faux, que le PS aurait compensé son tournant néolibéral, politique de la rigueur, d'austérité, etc., par une sorte de bienveillance vis-à-vis des minorités, de l'immigration, etc. En réalité, c'est radicalement faux. Pourquoi? Parce que dès les années 80, le PS fait d'abord effectivement un tournant sur les questions économiques et sociales, donc vers la rigueur, vers l'austérité, vers le néolibéralisme, et à peine quelques années après, commence à tenir des discours non seulement anti-immigrés, anti-immigration. C'est l'époque où Michel Rocard dit on peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est l'époque où Mitterrand dit le seuil de tolérance en matière d'immigration a été atteint. Mais par ailleurs, pratique des expulsions de masse de travailleurs immigrés sans papier. Notamment sous Rocard, entre 88 et le début des années 90, il y a des expulsions de masse. Et de la même manière que Hollande, puis Valls, dans les années 2000, 2010, par exemple, Valls dira à l'Assemblée, tout le monde a oublié ça, mais il répondra à la droite qui l'attaque sur la politique sur la politique sur l'immigration, et Valls dit, nous expulsons plus que vous. Bon. Donc, évidemment, là encore, c'est une contribution à la montée de l'extrême droite, parce que le principal parti associé dans l'esprit de beaucoup de gens à la gauche tiennent des discours anti-immigration, disent que l'immigration est un problème, notamment quand ça atteint un certain seuil, etc., ce qui est un peu la phrase de Hortefeux, en gros, quand il y en a quelques-uns, ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça va pas, ça participe à la construction d'un consensus xénophobe, d'un consensus anti-immigration, anti-migratoire, anti-immigré, qui évidemment, dont ceux qui tirent les marrons de ce feu-là, c'est l'extrême droite. Et après, ils ont participé également, plutôt à partir des années 2000, mais en réalité, ils ont commencé dès les années 80, à l'imposition d'un consensus islamophobe, anti-musulman. D'abord, je dis dans les années 80, parce que les premiers à introduire des discours islamophobes dans le champ politique français, c'est des ministres socialistes. En réalité, c'est même coordonné entre eux, puisqu'il y a quatre ministres socialistes, dont le Premier ministre Mauroy, le ministre de l'Intérieur Defferre, le ministre du Travail Auroux, etc., qui tiennent des discours islamophobes au moment des grandes grèves ouvrières dans l'industrie automobile, qui mobilisent notamment des ouvriers spécialisés d'origine maghrébine, ou maghrébins eux-mêmes, et qui disent ce sont des grèves intégristes, ce sont des grèves saintes, mobilisées, enfin il y a derrière des agitateurs intégristes, etc. Tout ça pour faire flipper en fait la population autour de ces grèves qui sont clairement des grèves ouvrières assez classiques, dans un moment de plans sociaux, enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui des plans sociaux, des plans de licenciement, etc. Et puis dans les années 2000, 2010, etc., les socialistes vont autant que la droite voter les lois islamophobes, faire passer des circulaires islamophobes, en tout cas ou presque autant que la droite en tout cas, et donc contribuer également à installer ce consensus islamophobe qui n'a été brisé en réalité à gauche que à une échelle de masse, je veux dire, hein, que il y a quelques années quand la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon se sont ralliés en réalité à la critique de l'islamophobie d'État et à la critique notamment des instrumentalisations islamophobes de la laïcité.
On a évoqué la France insoumise. Pendant un temps, une des grilles d'analyse de la France insoumise sur le vote d'extrême droite, c'était la théorie du fâché pas facho, sur laquelle elle est un peu revenue depuis, qui a l'air d'être plutôt reprise aujourd'hui par des gens comme Fabien Roussel ou François Ruffin. Qu'est-ce que tu penses de cette grille d'analyse du fâché pas facho?
Bah alors, il faudrait préciser, la théorie, c'est que l'électorat du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui serait composé principalement, voire uniquement, enfin en tout cas principalement, de gens qu'on peut décrire comme fâchés, mais pas fachos. En gros, des gens qui seraient en colère, notamment en colère vis-à-vis des politiques néolibérales, pour faire vite, ou des privatisations, du manque de services publics, etc., mais qui seraient pas fondamentalement fachos, au sens où ils seraient pas fondamentalement racistes, notamment. En gros, c'est ça l'idée qui est colportée, et qui est colportée sur un plan intellectuel aussi par Piketty et Cagé, par exemple. Quand, dans leur bouquin sur l'histoire politique française depuis presque 2 siècles et demi, qui est un bouquin vachement intéressant par plein d'aspects, hein, mais notamment ce qu'il raconte du vote en faveur de l'extrême droite, et à mon avis radicalement faux de ce point de vue-là, et ce que dit notamment Julia Cagé dans diverses interviews, et me semble radicalement faux, au sens où elle nous dit... Les électeurs du Rassemblement national, en fait, c'est des gens qui réclament plus de services publics. D'une certaine manière, il suffirait que la gauche investisse ce terrain de la défense des services publics pour que les rapports de force électoraux changent, etc. Enfin, c'est une simplification outrancière, au sens, parce que c'est pas radicalement faux. Évidemment, dans les causes de la progression de l'extrême droite, il y a, je le disais, l'intensification des concurrences sous l'effet des politiques néolibérales. Il y a la montée du chômage, de la précarité, de l'insécurité sociale, je l'ai dit, hein, il n'y a pas de souci. Et par ailleurs, il faut évidemment que la gauche défende les services publics, défende clairement l'idée qu'il faut remettre de l'argent dans les services publics, etc. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Simplement, tout ça ne doit pas conduire à esquiver la dimension raciale et raciste de, non seulement du vote pour l'extrême droite, mais du projet de l'extrême droite. Dans pour enfin couper le tu vois couper le petit je reprends un peu mon souffle, mais toutes les enquêtes, qu'il s'agisse d'enquêtes quantitatives, notamment des sondages d'opinion qui sont faits, enfin évidemment on peut être sceptique sur les sondages d'opinion, mais en fait quand pendant 30 ans vous faites des sondages sortis des urnes où vous demandez aux gens pourquoi ils ont voté pour le FN et qu'à chaque fois ce qui revient en premier c'est l'immigration, vous pouvez pas dire, enfin vous pouvez pas dire sérieusement, esquiver complètement cette dimension là et dire non, en fait les gens disent immigration mais ce qu'ils veulent dire c'est service public, ce qu'ils veulent dire c'est chômage, ce qu'ils veulent dire c'est salaire. Bon, en réalité même la question économique du pouvoir d'achat elle est potentiellement piégeuse, parce que ce que montre par exemple Félicien Faury là pour le coup sur la base d'une enquête plus qualitative, notamment à partir d'entretiens avec des électeurs ou électrices du RN, c'est que la plupart des électeurs qu'il a rencontrés ou électrices, quand ils parlent de pouvoir d'achat et qui prétendent voter pour le Front National ou Rassemblement National en termes de pour des raisons de pouvoir d'achat, ils disent pas tellement qu'ils souhaiteraient une redistribution des richesses au sens où la gauche l'entend, notamment la gauche radicale, c'est en gros, enfin vite, un partage des richesses moins défavorables aux travailleurs, des augmentations de salaire d'un côté, où on prendrait sur les profits aussi pour financer justement les services publics, etc. Ce que généralement disent les électeurs électrices, c'est qu'ils considèrent qu'il faudrait baisser leurs impôts, et notamment que les impôts servent à des choses qui sont inutiles, en fait, notamment soigner des étrangers ou donner du logement social à des étrangers, etc. Et donc, il faudrait donner moins à eux pour que moi j'ai plus, notamment que j'ai plus en termes de revenus, parce que mon revenu serait moins grévé par les impôts. Bon. Et donc voilà, enfin que les gens disent par exemple pouvoir d'achat ne dit rien de comment ils entrevoient, comment ils voient la manière d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et bien souvent les électeurs du RN sur ces questions économiques et sociales en fait sont au sein des classes populaires, pour les électeurs des classes populaires qui votent RN, sont pas forcément les gens qui sont les plus à gauche, au contraire c'est plutôt ceux qui sont les plus à droite, les plus hostiles aux syndicats, les plus hostiles aux mouvements sociaux, les plus hostiles à un certain nombre de mesures que propose historiquement la gauche. Donc voilà, donc les électeurs du RN, enfin ça veut pas dire qu'ils sont pas en colère, mais le problème c'est l'orientation de cette colère. Et du coup après il y a des questions d'orientation, parce que si vous pensez qu'effectivement c'est essentiellement ou majoritairement des fâchés et pas fachos, la question effectivement des batailles antiracistes ne se pose pas. Parce que c'est pas l'enjeu principal, c'est pas quelque chose qui pose problème. En réalité, là encore, si on mène pas ces batailles, effectivement, nous sommes très certainement minoritaires sur les questions d'immigration. Enfin, il suffit de regarder un certain nombre d'enquêtes, effectivement, pour voir qu'il y a une large majorité de la population en faveur de mesures anti-étrangers, aussi les étrangers, par exemple sur le logement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réserver le logement social aux Français? Il y a beaucoup de gens qui pensent, très majoritairement, il y a un sondage qui montrait que 80% des gens disaient qu'il fallait réserver le logement social aux Français, et donc en exclure les étrangers, mais c'est vrai sans doute pour les dépenses de santé, etc. Bon, mais si on mène pas les batailles sur ces questions-là, c'est sûr qu'on est minoritaire. Dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on sera encore plus minoritaire si les batailles ne sont pas menées, et si on fait la politique que propose Ruffin ou Roussel, qui consiste à mettre ces questions sous le tapis en pensant que les électeurs du RN vont se détourner du RN pour voter pour eux, si on n'en parle pas, si on ne parle pas de l'immigration, c'est en réalité ce qu'a fait la gauche, et qui a aussi favorisé la progression de l'extrême droite, c'est de ne pas mener les batailles, y compris idéologiques ou culturelles, autour de ces questions, par exemple d'immigration, mais il y en a d'autres, hein, dans les années 80-90, et en réalité d'endosser le récit de la droite de l'immigration et de l'extrême droite, qui est l'immigration est un problème. Alors au début, ils ont dit que l'immigration est un problème, après la droite s'est mise à dire, comme l'extrême droite, que l'immigration c'est une menace, et que c'est l'origine d'à peu près tous les problèmes de la société française, la délinquance, le chômage, etc. Et en fait, l'extrême droite, d'une certaine manière, a grignoté tout le champ politique, notamment dans sa politique xénophobe anti-immigré. Donc voilà, donc je pense que ce que ça veut dire, c'est que la politique de lutte contre l'extrême droite doit forcément articuler les questions sociales, au sens traditionnel du terme, les questions économiques et sociales, les questions de pouvoir d'achat, les questions de services publics, etc. Ça, c'est évident. L'ensemble des classes populaires sont concernées par ces questions-là, qu'elles soient rurales ou urbaines, qu'elles soient issues ou non de l'immigration, etc. C'est quelque chose qui est effectivement important et c'est unifiant. Enfin, ça a une potentialité unificatrice des intérêts de l'ensemble des classes populaires et même de l'ensemble des salariés ou de la grande majorité des salariés. Mais ça ne doit pas conduire à, là encore, mettre sous le tapis ou esquiver les revendications, les propositions, les luttes féministes, antiracistes, anti-guerre, etc. Les batailles ne s'opposent pas aux autres en réalité. Et d'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, celui qui a proposé, pour des motifs largement électoralistes, de mettre sous le tapis les questions d'antiracisme, de lutte contre les violences policières, d'islamophobie, etc., c'était Fabien Roussel, et il a fait un score pitoyable. Et celui qui a un tant soit peu articulé ces questions-là, et notamment en étant assez virulent contre l'islamophobie, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, tout en articulant avec un programme assez classique sur les questions économiques et sociales, augmentation des salaires, de l'argent des services publics, titularisation des précaires, et ce genre de choses, eh bien, il a fait 22%. Donc ça montre bien que même d'un strict point de vue électoral ou électoraliste, c'est pas un bon calcul en fait, cette affaire de « on va se concentrer sur les questions économiques et sociales, on va gagner ». Zoran Mamdani à New York, peu importe l'appréciation qu'on en a et les illusions qu'on peut avoir sur ce qu'il pourra offrir une fois élu, s'il est élu, il a parlé de la Palestine, il a parlé des questions d'immigration, et il a articulé ça à des questions de logement, les questions de garde d'enfants, etc. En fait, c'est ça l'avenir pour la gauche. C'est une gauche qui est capable justement de combiner l'agenda classique sur les questions économiques et sociales et les luttes antiracistes, féministes, anticoloniales, etc.
C'est quelque chose qu'on a déjà parlé un petit peu, mais tu montres que la fascisation s'appuie beaucoup sur la guerre contre le terrorisme. Alors on peut imaginer qu'il y a des gens qui se disent « bon, il y a eu des attentats, c'est normal de prendre des mesures ». Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce point ?
D'abord, il faut peut-être préciser que par fascisation, j'entends l'idée qu'il y a une période antérieure à l'État fasciste ou à un pouvoir fasciste qui, en quelque sorte, prépare matériellement, idéologiquement cet État, ce type d'État, cette forme d'État, idéologiquement, donc dans les cerveaux, dans les esprits, dans les âmes, en quelque sorte, on pourrait dire, ou dans les affects, etc. Et puis, sur le plan matériel, c'est plus la manière dont, finalement, l'État va être en partie transformé d'ores et déjà antérieurement à l'arrivée des fascistes au pouvoir et à leur politique de transformation de l'État. D'une certaine manière, aux États-Unis, on pourrait pointer par exemple le Patriot Act après le 11 septembre 2001 comme une sorte de vecteur de fascisation de l'État fédéral qui a préparé d'une certaine manière le Trumpisme qui aujourd'hui cherche de manière beaucoup plus active encore à transformer radicalement et qualitativement l'État fédéral états-unien dans quelque chose qui ressemblerait à un État de type fasciste. Là, l'idée, effectivement, et Patriot Act, ça marche assez bien, hein, c'est que les lois antiterroristes, l'empilement de lois antiterroristes depuis les années 80 a eu un effet de, si on veut, de fascisation par le recul des libertés publiques, des droits démocratiques. Dans une période par ailleurs marquée par la puissance de l'extrême droite qui du coup rend palpable le danger de type fasciste, c'est-à-dire le danger d'arriver vers un État qui soit un État de guerre à l'encontre des minorités, des classes populaires et des organisations populaires et des mouvements de contestation. Il faut quand même préciser que cet empilement de lois antiterroristes, ce recul des libertés publiques et des droits démocratiques les plus élémentaires, n'aurait pas été possible sans de vastes campagnes de dénigrement islamophobe, puisque ce qui a légitimé, ce qui a justifié dans l'opinion, ou ce qu'on appelle l'opinion publique, la mise en œuvre de ces lois antiterroristes et donc les reculs qu'elles impliquaient, hein, y compris donc récemment des lois qui ne sont pas à proprement parler des lois antiterroristes, mais qui sont connectées à ça, je pense notamment à la loi dite séparatisme, confortant les principes républicains, etc., sont en fait des lois qui à la fois ont ciblé très clairement et explicitement les musulmans et les musulmanes, et qui en ont été en quelque sorte acceptées ou qu'on ont été peu contestées que parce que elles ciblaient un groupe qui avait été préalablement en quelque sorte disqualifié, diabolisé, etc., et considéré comme une source de danger mortel pour la nation française, pour la civilisation européenne, etc. Donc l'antiterrorisme fonctionne en couple en réalité avec l'islamophobie, l'islamophobie étant en quelque sorte l'idéologie de l'impérialisme au XXIe siècle, pour l'essentiel, largement. Toutes les campagnes guerrières menées par les États-Unis en particulier, avec leurs alliés occidentaux, la plupart du temps, la Grande-Bretagne, la France, etc., ont été légitimées par des arguments islamophobes. Pas seulement islamophobes, parfois par des arguments civilisateurs prétendument féministes, que par exemple comme la campagne militaire en Afghanistan, on va libérer les femmes afghanes, etc. Mais presque toujours avec un imaginaire islamophobe derrière de libérer ces peuples de la barbarie islamique, etc. Et ces campagnes civilisatrices ou prétendument civilisatrices s'opèrent également à l'échelle nationale ou dite intérieure française, avec toute cette constitution des musulmans et des musulmanes comme ennemis de l'intérieur, pour reprendre les mots de Mathieu Rigouste en particulier. Donc voilà, il faut à mon avis voir comment l'autoritarisme d'État et sa progression, sous notamment l'effet de ces lois antiterroristes, ou qui prétendent d'ailleurs lutter contre le terrorisme et qui sont par ailleurs radicalement inefficaces contre le terrorisme, on l'a vu notamment en 2015, fonctionne en couple avec la montée du racisme. Et voilà, ces deux vecteurs-là sont effectivement les vecteurs principaux en couple hein, de la fascisation et d'une dérive autoritaire qui effectivement peut nous conduire vers un type d'État radicalement différent où en gros l'État de droit n'existe plus pour personne, un État de droit qui d'ores et déjà pour certains groupes est en partie fictif ou en tout cas pour des groupes stigmatisés en permanence et dont les droits ont été progressivement attaqués, notamment les musulmans et les musulmanes, mais aussi les Roms, mais aussi les exilés.
Donc à la fin de ton livre, tu dis que la solution ne peut pas venir d'un antifascisme bourgeois. Qu'est-ce que tu entends par là?
Bah, un antifascisme bourgeois, pour faire vite, mais qui on pourrait dire aussi un antifascisme blanc, bon. Mais c'est un antifascisme qui, en quelque sorte, consolide plus qu'il ne conteste l'ordre social ou même l'ordre socio-racial. C'est un antifascisme qui prétend défendre les institutions dites démocratiques républicaines face aux fascistes et qui prétend par ailleurs que ces institutions nous défendront ou nous protégeront face au fascisme. Bon, et effectivement, je pense qu'il faut contester ces deux points. On n'est pas là pour sauver les institutions républicaines démocratiques avec tout ce qu'elles ont de largement illusoire, même s'il faut pouvoir s'appuyer sur les droits démocratiques tels qu'ils ont été conquis par les luttes populaires passées. Et effectivement, ces institutions enregistrent un certain niveau de lutte passée, mais elles sont extrêmement partielles, extrêmement limitées. C'est évidemment pas ça la démocratie telle que nous on l'entend et telle que nous on la défend. Donc on n'est pas là en sauveur en réalité des institutions républicaines démocratiques. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, démolir méthodiquement ces illusions autour du fait que les institutions nous protégeront. Alors, les institutions de la Ve République en particulier, ce sont sans doute en Occident les institutions les plus loin des standards minimaux d'une démocratie libérale parlementaire. Elles donnent un pouvoir énorme à l'exécutif. Des fois, j'hallucine en voyant que des commentateurs s'étonnent que l'extrême droite ne conteste pas la Ve République. Mais enfin, c'est le contraire qui devrait nous étonner. Si l'extrême droite se mettait à dire il nous faut une constitution beaucoup plus démocratique, parlementaire, qui fait plus de place, je sais pas moi, aux négociations, etc. Enfin, non, la Ve République est un régime absolument parfait pour l'extrême droite au pouvoir, d'autant plus qu'ont été installés, mis en place tout un répertoire, un arsenal juridique, réglementaire, et même un arsenal au sens premier du terme, hein, au cours des dernières années, qui sera immédiatement disponible pour une extrême droite parvenant au pouvoir et qu'elle pourra utiliser à l'encontre de l'ensemble des mouvements de contestation, évidemment à l'encontre des minorités, et notamment de la minorité musulmane, évidemment à l'encontre des quartiers populaires et d'immigration, si jamais il y a des mouvements, des révoltes, etc. Elle aura tout un tas de possibilités pour y faire face de la manière la plus brutale, et tout en ne sortant pas en réalité de la légalité à proprement parler. puisque c'est quand même toujours un enjeu, même pour une extrême droite au pouvoir, c'est parvenir à briser, à réprimer brutalement, sans avoir à instaurer de manière formelle une dictature, hein, tout en se moulant en quelque sorte dans la légalité bourgeoise traditionnelle. Bon voilà, l'autre point sur l'antifascisme bourgeois, c'est sur la question en quelque sorte de l'horizon ou des moyens et de la politique. Enfin bon, qu'est-ce qu'on défend quand on est un antifasciste bourgeois? Ben, on défend que au moment des futures élections, des prochaines élections, il faudra bien voter au deuxième tour, c'est à voter contre le candidat d'extrême droite. Bon, effectivement, si c'est ça la question, on a perdu d'avance. Bon. La question, c'est pas de savoir si il doit y avoir un deuxième tour entre Le Pen ou Bardella d'un côté et un candidat de la droite macroniste ou LR pour qui on va voter. C'est une non-question. Si on est condamné à cette question, là encore, c'est qu'on a déjà perdu. La question, c'est comment on fait émerger une alternative. Disons avant même d'une certaine manière que ces élections arrivent, qui peut se traduire par ailleurs sur le terrain électoral, mais faire en sorte qu'on n'ait pas à faire ce type de choix entre deux mots en réalité. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions tactiques qui peuvent se poser dans des élections locales ou nationales, mais il faut les poser en leur temps, effectivement, dans un entre-deux-tours, bon, pour qui on va voter, est-ce qu'on va voter, etc. Bon, ça peut être des bonnes questions. Mais à 1 an ou 2 ans ou 3 ans parfois des élections, se poser ce genre de questions, c'est déjà dans un esprit en réalité de défaite. L'autre chose, c'est que bien souvent, les antifascistes bourgeois sont des gens qui se contente de dire finalement il faudrait en termes de combat antifasciste il faudrait mieux éduquer les gens, il faudrait mieux les informer. Alors donc c'est toutes les entreprises de debunkage, je sais pas si on dit comme ça, enfin en tout cas de réfutation des discours d'extrême droite, tout ce qui insiste sur l'information, la presse, etc. Alors bien sûr il faut le faire. Il faut debunker le programme soi-disant social du FN ou du RN. Il faut traduire le programme du RN ou de Reconquête en termes concrets. Par exemple, quand il parle de remigration, bah ça veut dire déportation. Enfin, tout ça, il faut le faire, ce travail, hein. Mais ce travail purement idéologique, à mon avis, il met de côté ce qui est l'aspect le plus fondamental, à savoir que si on veut affronter l'extrême droite, il faut plus d'organisation collective, plus de mobilisation sociale, de mobilisation populaire. Il faut faire reculer en réalité le désespoir qui s'est emparé largement des classes populaires dans la plupart des pays du monde en réalité, hein, depuis les années 80, et faire renaître l'idée qu'une alternative est possible, une alternative au néolibéralisme à minima, mais aussi une alternative à la société capitaliste, puisque d'une certaine manière, effectivement, le capitalisme sécrète à chacun de ces grands moments de crise ce type de courant politique qui est en fait qui cristallise l'ensemble des rapports d'oppression constitutifs du capitalisme, le racisme, le masculinisme, évidemment. L'exploitation patronale, et donc d'une certaine manière on ne parviendra pas à briser fondamentalement le fascisme si on ne construit pas une autre société. Donc il faut parvenir à articuler à la fois des questions de défense qui supposent des alliances avec des antifascistes bourgeois très certainement, hein, mais il faut pas que le centre de gravité de l'antifascisme soit celui de ces courants-là. Bon. Et puis l'articuler avec un horizon de transformation sociale radicale sans lequel il n'y a pas d'antifascisme. D'ailleurs, dans l'antifascisme italien même des années 20, bon, il y avait le courant communiste sous la direction de Gramsci, etc., mais il y avait aussi d'autres courants antifascistes non communistes, mais qui voyaient très bien qu'on pouvait lutter véritablement contre le fascisme que en adossant cet antifascisme à un horizon révolutionnaire. Alors, ce n'était pas toujours très clair la vision qu'ils avaient de la société à venir, etc. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas très clair non plus pour nous, d'une certaine manière, hein. Mais cette idée qu'il faudra transformer radicalement la société pour en finir avec ces tendances, en quelque sorte, les plus oppressives, les plus brutales, les plus violentes, qui se cristallisent autour du fascisme.